Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous le savez bien, le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Des Togolais se sont rendus aux urnes hier pour le compte des municipales de 2025. Minute de leur carte, ils sont invités à renouveler les 1527 conseillers municipaux répartis dans les 117 communes du pays. Au total, 12 541 bureaux de vote sont ouverts sous le regard des missions d'observateurs nationaux et internationaux dûment accrédités. Et selon les chiffres validés par la Cour suprême, près de 500 listes sont en lice, alors regroupant 53 indépendants, 19 partis politiques et 9 regroupements de partis. Le sujet nous intéresse. Quoi de plus normal, justement, qu'on en parle déjà au lendemain de ces élections. Nous aborderons le sujet, nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Et nous parlerons de tout cela dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 18 juillet 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde, Jérôme Dakouta est à la mise en ligne, je suis Pascal Lesso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site internet www.canalfm.com et aussi sur nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes confrères, journalistes en studio et aussi des invités et en studio avec moi, confrères journalistes en studio déjà, c'est Firmin Tekou Arbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lesso, merci de m'avoir invité.
Et j'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien par la grâce de Dieu.
Comment vous vous sentez déjà au lendemain de ces municipales?
Ah, écoutez, moi, je suis pas candidat.
Je sais que vous n'êtes pas candidat, mais en tant que citoyen.
Mais je me sens bien. Je me sens bien. En tant que citoyen, je me sens bien. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Je me sens bien par rapport au climat qui prévaut au lendemain des élections. Avec tout ce qui avait été annoncé, on se dit les élections sont déroulées dans le calme. Mais en tant que journaliste, je me dis que tout s'est bien passé. Sur le terrain, des gens sont allés voter, on a appelé un peu l'intérieur, tout s'est globalement bien déroulé, le dépouillement s'est déroulé aussi de façon sereine. Donc moi je me dis, tout va bien au Togo, les Togolais ont repris le chemin de leurs activités ce matin, on ne peut que remercier Dieu.
On ne peut que remercier Dieu, je ne sais pas si lui aussi, quand il a fait le constat lors de tout va bien comme Firmin. Je veux bien parler de Gabin Adjaro. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. La semaine s'achève, hein. On rend grâce à Dieu.
On rend grâce à Dieu, justement. Vous êtes juriste et aussi analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
D'accord. On parlera de vos appréciations par rapport au municipal tout de suite dans cette émission. Autre invité, c'est Elon d'Almeda. Elon, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pascal.
Vous êtes conseiller régional de la voix des sans voix et j'espère que vous allez bien.
Oui, nous allons bien, mais nous sommes également un peu déçus d'un certain nombre de choses qui se passent dans le pays. Comme vous l'avez dit, nous sommes la voix des sans voix. Et je pense qu'au cours de cette émission, nous aurons l'occasion de parler de ces sujets
tout à fait.
Qui nous tiennent à cœur parce que nous pensons et nous avons à cœur de porter la voix des sans-voix, la voix du plus grand nombre, la voix des populations togolaises.
Peut-être on dirait cette majorité silencieuse, vous avez pris à cœur de porter la voix de cette majorité, c'est ça?
Oui, malheureusement, quand la majorité est silencieuse, la petite minorité active prend toujours le pas sur eux. C'est pourquoi nous avons depuis un certain temps essayé d'être cette voix-là et d'être ces personnes-là, ces citoyens engagés-là qui défendent ceux qui se taisent pour que nous, on parle en leur nom. C'est dommage que les gens n'aient pas bien faire la part des choses et a bien expliqué un certain nombre de sujets, de points aux populations pour qu'ils comprennent bien les enjeux. Je pense que nous venons de sortir des élections, comme vous avez posé la question à votre confrère.
Non, on en parlera tout de suite pour ce qui concerne alors ces élections. On en parlera et bien sûr, quoi de plus normal qu'on débute même cette émission avec les appréciations que nous avons même d'ailleurs de ces élections. D'abord, c'est vrai qu'il y a des journaux qui sont sortis aujourd'hui et quoi de plus normal également que ces journaux reviennent sur ces questions électorales. Il y a le journal Liberté qui revient sur le sujet, le journal écrit municipal 2025, les bureaux de vote désert à Lomé, des cas de fraude signalés dans certaines localités. Et à la une, bien sûr, du journal, le journal qui met la photo alors de l'EPP ou en Lomé à 10h30 et EPC NDA après 15h et l'EPC Yokwe, il n'y avait pas alors d'électeurs, c'est ce que le journal écrit. Le journal écrit également avec à sa une la photo du CG Tokwe Nord aux environs de 12h. C'est bien ce que le journal a écrit. Et autre journal qui s'intéresse au sujet, c'est bien le journal L'Union qui écrit municipal 2025 exemplaire. Et c'est bien ce que le journal a écrit ce matin. Alors, Gabin, oui. Je sais que vous aussi, vous avez eu à sillonner certains bureaux de vote ou certains centres de vote hier. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, au niveau de l'atmosphère, on peut dire que c'était le calme. Il y avait un certain calme et une sérénité qui régnait quand même dans la ville. Moi, j'ai accompli mon devoir civique dans un établissement scolaire à Agouet, que je ne vais pas citer. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas véritablement d'affluence. Il n'y avait pas d'affluence. Moi, j'étais venu à 8 heures. Je suis directement rentré dans le bureau de vote sur lequel était affiché mon nom. J'ai juste accompli mon devoir civique. Juste après, j'étais sorti. Et sur la liste du margement, j'ai juste constaté qu'il y avait à peine 3-4 personnes qui avaient voté. Et je me suis dit, bon, peut-être que les gens vont venir par après. J'étais resté là pendant au moins 50 minutes. Et pendant ces 50 minutes-là, dans tout le centre de vote, j'ai juste eu à compter 16 personnes qui sont venues accomplir leur devoir civique aussi. Juste après, j'étais parti visiter d'autres centres de vote, Bégar, Gbenedi, École primaire publique à Klassou, Bekbouta et autres. C'était le même constat. Les gens n'étaient pas sortis, c'était pas de l'affluence. Les membres des bureaux de vote même fouillaient leur portable, d'autres ont carrément mis la tête sur la table pour dormir. Et c'était un peu alarmant pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et quand on sait très bien que la CENU nous avait dit qu'il y avait plus de 4 millions de personnes inscrites sur la liste électorale.
On parlait de 4 millions.
Voilà. 600. Plus exactement, 4 millions 600.
Justement.
Voilà. Donc, comment se fait-il qu'il y ait ce nombre-là sur la liste électorale et que le jour J, le jour où ces personnes doivent faire prévaloir leur vote, ils ne sont pas sortis pour voter et les gens venaient à compte-gouttes. C'est ce qui m'a attristé, ça m'a véritablement attristé parce que les élections, surtout ces élections-là, ce sont des élections de la gestion à la base, ce n'est pas une élection typiquement politique. Les citoyens eux-mêmes se sont constitués en liste indépendante et autres là pour participer à ces élections. Comment se fait-il que pour une élection qui va implémenter le développement communal, les gens ne puissent pas sortir nombreux pour aller accomplir leurs devoirs civiques? Ça m'a encore beaucoup plus fait réfléchir au fait que les Togolais se sont beaucoup plus désintéressés et de la chose politique et aussi des histoires d'élections dans nos pays.
C'est vrai que nous avons fait aussi le tour hier. On a vu, on a constaté un certain nombre de choses. Par exemple, nous étions partis au sujet des étoiles, et pas loin de nous, hein, bien sûr. Dans certains bureaux de vote, on voit comme nombre d'inscrits 409, nombre de votants 54. Et encore autre bureau de vote, nombre d'inscrits 403 et nombre de votants 72. Et encore un autre bureau de vote, nombre d'inscrits 406 et nombre de votants 65. On pourra dire, je ne sais pas si vous aussi vous avez fait le même constat.
Ouais, l'ambiance, je ne dirais pas l'ambiance, mais l'atmosphère était un peu timide. Il n'y avait pas assez l'affluence n'était pas au rendez-vous, que ce soit dans la matinée ou vers midi, mais toujours est-il que les gens sont sortis pour voter. Ça ne m'étonne pas pour deux raisons. La première raison, c'est que sur le plan mondial, ces derniers temps, il y a le taux de participation dans plusieurs pays va en décrescendo, c'est-à-dire il y a un désamour, il y a une désaffection entre les politiques et leurs éventuels électeurs ou les populations. Et la deuxième chose aussi, c'est au niveau de la capitale, dans tous les pays, cette désaffection devient beaucoup plus importante. Ça devient beaucoup plus importante parce que dans ces capitales-là, où on retrouve beaucoup plus l'opposition, il est difficile que des gens sortent. C'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs capitales, la plupart des capitales sont réservées aux opposants, parce que là-bas, il y a peut-être assez de revendications, il y a assez d'exigences, et nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui où tous les partis n'ont pas eu la même stratégie de campagne. Il y a des gens qui ont passé presque une semaine à ne pas battre campagne, à se souvenir des manifestations que nous avons ou des pertes de vies humaines en vies humaines que nous avons eues, et ils ont juste pris 7 jours pour battre campagne. Regardez, donc la plupart peut-être de ces militants des militants de ces candidats là ou partis politiques peut-être n'ont pas eu à se déplacer hier parce qu'ils n'ont pas été motivés. Il y a tout ça là qui joue. Donc au moment où un parti a pris la chose de la façon la plus sérieuse, d'autres partis dans la capitale se sont dit, donc on perd une semaine et on prend juste une semaine pour battre campagne. Donc tout cela a concouru et a fait que peut-être on n'a pas eu l'affluence à laquelle on s'attendait. Mais toujours est-il que c'est le la capitale. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas parlé de 4 millions d'électeurs, nous sommes plus de 8 millions. On parle de 4 millions d'électeurs. Les 4 millions ne se sont pas concentrés à Lomé. Peut-être à Lomé, on a un million ou moins.
Mais là, à Lomé, on a une concentration quand même de population.
On a une concentration, mais Lomé ne fait pas le Togo. C'est juste la capitale, c'est juste une ville du pays. Donc, on a peut-être plus de 3 millions à l'intérieur du pays. Si le taux de participation à Lomé n'est pas important, mais c'est ce à quoi on va s'attendre, ou le chiffre qu'on attend le plus, c'est le taux de participation sur le plan national. Peut-être à l'intérieur, on a peut-être 80% par endroit, 70% par endroit. Donc, quand on va faire le chiffre, on va faire le ratio, on va se dire, peut-être on va avoir à la venir, ce que la Chine va nous communiquer va être complètement différent de ce que nous avons observé à Lomé. Donc Lomé, juste la politique, en fait c'est l'erreur que peut-être plusieurs commettent, ou nous tous nous commettons, ou certains politiques commettent en limitant le Togo à Lomé. Si vous êtes populaire à Lomé, cela ne signifie pas pas que vous êtes populaire sur toute l'étendue du territoire national. Si vous êtes populaire sur les médias, vous êtes opposant, vous êtes populaire sur les médias à Lomé, cela ne signifie pas que vous êtes populaire sur toute l'étendue du territoire national. Il faut arriver à convaincre sur toute l'étendue du territoire national pour avoir des résultats.
Mais merci, merci Firmin. C'est vrai que ce constat de manque d'affluence a été partagé par beaucoup de personnes. J'ai appelé des confrères à l'intérieur du pays où ça a été dit également que il y a eu ce manque d'affluence autour alors de des élections alors d'hier. Et même à Rizanaoué, il y a justement le CS Victor Hugo, bien sûr, bureau de vote également là-bas, où on prend pour le nombre d'inscrits, il y a 372, mais le nombre total alors de votants s'élève à 33. Et également, le même constat a été fait à Baguida. Hier, moi-même, je me suis rendu à Baguida, au CG Baguida. Alors, je ne sais pas si... comment vous expliquez alors ce manque d'affluence?
Oui, merci pour cette question. Mais il faut d'abord remercier ceux qui ont eu le courage d'aller faire leur devoir citoyen, remercier nos militants au niveau de la Voix des Sans-Voix, nos militants dans la commune du Golfe 2, dans la commune du Golfe 3, dans la commune du Golfe 6, Vaud 2 et Vaud 3, où on était présents en tant que candidats, et dont nos militants ont eu le courage, certains parmi eux ont eu le courage d'être allés voter, et on les félicite pour ça. Maintenant, en ce qui concerne le boycott, comme les autres l'ont dit, le boycott a été vraiment criant, et ça a encore augmenté par rapport aux dernières élections couplées régionales et députations. Ça s'explique parce que il y a une frange de la population, une frange des leaders d'opinion, des leaders politiques qui ont appelé au boycott. Il y a également, compte tenu du contexte politique actuel, ce que nous appelons affectueusement les blogueurs ou bien les influenceurs ont également pesé sur ces élections-là en appelant au boycott, à tort ou à raison. Vous savez, au Togo, il y a eu toujours une bonne fausse raison de boycotter. On a toujours boycotté les élections. Toujours boycotté les élections. Comme l'a dit M. Firmin, des fois, c'est à la dernière minute que les partis politiques décident de participer, juste pour aller sauver les meubles. Depuis 92, il y a toujours une bonne raison, une bonne fausse raison de boycotter. C'est ça qui pénalise, au final, l'opposition, et ça fragilise l'opposition dans les instances de décision. Aujourd'hui, avec la décentralisation et le développement à la base, les communes, c'est une occasion de déverrouiller les institutions, comme le disait Maître Agboibo. Malheureusement, il y a toujours des gens qui appellent au boycott. Ces gens-là qui appellent au boycott, si on prend les leaders de partis politiques, soit eux-mêmes, ils sont en incapacité structurelle au niveau de leur parti, au niveau de leur base, au niveau de leur organisation, à participer à ces élections. Donc, par ricochet, ils demandent à ce que les autres boycottent aussi. Alors, le dilemme de ceux qui ont des structures, des partis politiques avec des militants, c'est de participer ou de ne pas participer. Les militants veulent participer parce que, ayant la mémoire de tous les boycotts qu'on a eu à faire, qui n'ont pas porté les fruits escomptés. Donc, les militants disent, ok, participons, allons et on verra ce que ça va donner. Prenons des strasbourgeois, prenons des petits postes pour faire le guet, pour faire l'observateur, pour faire le gardien, en attendant dès le lendemain meilleur pour notre démocratie, pour notre développement et consort. Maintenant, quand ils appellent au boycott, ils disent que ceux qui veulent participer sont corrompus. Alors, certains disent qu'ils ne vont pas y aller. C'est vrai qu'il faut également avoir une pensée de solidarité, une pensée pieuse aux personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations récentes. Donc, beaucoup de personnes ont estimé, à raison, ou bien, bon, sûrement à raison, que le contexte n'est pas propice pour aller aux élections. Parce que les gens viennent de mourir, parce que les manifestations sont là, il y a une grogne sociale, il y a des revendications qui n'ont pas été répondues. Et aussi, les gouvernants ont gardé un silence assourdissant. Ce qui n'est pas bien. Tout le monde sait qu'il y a eu des manifestations. On a célébré de façon ironique l'anniversaire du président du conseil. Mais il n'a rien dit. Il s'est contenté de dire merci à ceux qui lui ont jeté des fleurs. Il y a eu l'enterrement du président du Nigeria. Le président du conseil a salué ça. Mais il y a eu, en tout cas, il a eu une pensée pieuse à cet ancien grand leader du Nigeria. Mais il n'a rien dit par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc, en résumé, le contexte a obligé les populations à rester à la maison, mais également des leaders ont appelé à ce que on boycotte. Mais je pense que nous, en tant que d'une certaine génération, nous ne pensons pas que le boycott est la solution actuellement. Nous avons une stratégie dont je parlerai à la suite.
Oui, j'aimerais vous dire bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu, ça va.
Grâce à Dieu, ça va. Alors, nous sommes en train de parler alors des municipales d'hier. Concrètement, quel est ce constat que vous avez fait sur ces municipales qui se sont déroulées hier?
Ben, on peut saluer le bon déroulement du scrutin parce que les enjeux étaient multiples. Déjà, il fallait tenir ce scrutin. Pour renouveler les conseils municipaux. C'est un rendez-vous de la nation qui doit se tenir. Ça a été fait. Maintenant, avant ces élections, il y a eu quand même un contexte de tension avec des appels à empêcher la tenue de cette élection. Donc, il fallait sécuriser ce scrutin. Et je pense que la FOSEM a fait un travail très remarquable. Maintenant, pour les partis politiques dont le rôle est de conquérir et d'exercer le pouvoir. On a vu quelques hésitations par endroit au sein de l'opposition. Certains avaient souhaité ne pas participer, mais finalement, ils se sont jetés corps et âme dans cette bataille-là. Et ça aussi, ça a été gagné. Maintenant, c'est le taux de participation qui est aujourd'hui un aspect sur lequel on discute. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a un taux de participation sur lequel qu'il faut atteindre pour valider une élection? Non, il n'y en a pas. Mais après, le taux de participation est important parce qu'il contribue aussi de voir la vitalité de la démocratie, de voir l'intérêt que les populations aussi apportent à l'offre politique, de voir la confiance que les populations ont au regard des acteurs politiques. Et donc, ça, c'est important maintenant. Ici, il y a la nature de cette élection qui est un peu différente parce que vous savez que dans nos pays, c'est la présidentielle. Comme dans d'autres pays d'ailleurs, c'est la présidentielle qui focalise plus les énergies. Après, il y a les législatives et en termes de classement, les municipales qui ne sont pas trop ancrées dans nos traditions, mais pour lesquelles, pour cette fois-ci, il faut quand même saluer l'engagement de la jeunesse, ne serait-ce qu'au niveau des candidatures. Vous avez vu qu'il y a 494 listes, et quand vous parcourez un peu ces listes-là, vous allez voir plein de jeunes qui sont engagés. Moi, c'est un aspect positif que j'ai relevé maintenant. Et ce qu'on a vu à Lomé, moi, je n'étais pas à l'intérieur du pays, c'est que globalement, il n'y a pas eu un fort taux de participation. Et comment moi je pourrais l'expliquer peut-être par rapport à la situation qu'il y a eu, parce que l'idée d'empêcher ces élections les 16 et 17 a été quand même assez largement répandue. Et avant cela, il y a eu le 6 juin, il y a eu le 26, 27, 28, où on a menacé des commerces, on a menacé des citoyens, certains peut-être. Mais après, il y a la nature de l'élection. Alors vous allez voir que les candidats, c'est des voisins. Vous verrez que sur les affiches, bon, d'ailleurs on a plein de confrères journalistes qui étaient, vous voyez, pour nous on se dit c'est une bonne chose, mais après ça dit, mais lui c'est mon voisin, il veut être, voilà, mais ça commence par là, l'apprentissage de la démocratie et surtout de la gestion de communauté. Donc ça fait que il n'y a pas ce fanatisme-là envers les candidats. Ce n'est pas des gens qui attirent forcément, parce que quand on voit les profils à la CENI, ben, c'est des artisans, enfin, des étudiants et tout ça. Donc, il y en a plein, les profils. Mais c'est une bonne chose. Il y a ce phénomène. Et après, il y a un désintérêt de la jeunesse par rapport à l'offre politique en général. De plus en plus dans nos pays.
Mais comment on peut l'expliquer, Germain?
Oui, les jeunes ne font plus confiance aux hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Les jeunes ne font plus confiance. On va dire, mais c'est des voleurs qui sont au pouvoir. Il faut pas. On va dire, les opposants aussi, c'est des corrompus. Ils vont prendre l'argent. Donc, on a discrédité tout le personnel politique. Et j'ai vu la dernière fois quand le leader de l'ANC allait en France rencontrer l'influenceur. Et vous avez vu ce qu'il a subi après. Mais on l'a littéralement lynché. Oui. Donc, quand on détruit l'opposition, quand on détruit le pouvoir,
c'est que les gens se disent, bon, la politique, c'est pas mon truc. C'est des voleurs, ils veulent arriver au pouvoir, nous voler. On a vu aussi, certains diront, mais il était opposant. Quand il a été élu député, on l'a jamais vu. Quand il a été élu maire, il n'a jamais rien fait. Donc, c'est le même. Dans le personnel politique a une image de plus en plus négative dans l'esprit des jeunes. Et quand on prend les personnes plus âgées, certains se disent, mais ceux-là, depuis 90, on vote pour eux, il n'y a pas de changement. Ils ne gagnent jamais, il n'y a jamais l'alternance, on est fatigué, même si on vote. Ça, donc, tous ces arguments-là ont fait que, mais la réalité, à mon sens, quand je vois ce qui s'est passé au Sénégal, où il y a Ousmane Sonko qui s'est révélé un phénomène, c'est l'offre politique. Qu'est-ce que vous offrez aux populations qui peut... Vous avez vu aussi aux États-Unis le phénomène Trump. Mais il a changé la façon de faire la politique avec une offre politique qui a rallié un maximum d'Américains. Donc, est-ce qu'il y a des Sonko, est-ce qu'il y a des Donald Trump dans nos pays? Même chose au Sénégal, aujourd'hui, ça se passe mal pour Sonko parce qu'il n'arrive pas à respecter aussi tout ce qu'il a promis pour arriver au pouvoir. Mais je crois qu'on a aussi un problème d'offre politique qui fait que les gens n'entendent aucun discours qui les incite à aller apporter leur confiance à ceux-là qui tiennent ce discours-là. Maintenant, c'est vrai que les types d'élections même ne favorisent pas trop l'affluence, mais tout ça, on le dit en attendant les chiffres officiels de la CENI, parce qu'on n'en sait rien, on ne parle que de Lomé. À l'intérieur, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. C'est comme pour les manifestations, quand on disait le pays brûlait, c'est dans deux ou trois quartiers de Lomé. Ce n'est même pas dans tout Lomé. Les autres villes, il n'y a eu aucune manifestation. Donc maintenant, on attend de voir quand même concrètement quels sont les résultats. Mais la tendance est quand même au désintérêt. Les jeunes et certaines personnes ne font plus trop confiance à l'offre politique.
Oui, mais Gabin, alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce fait qu'il y a ce désintéressement à la chose politique?
Oui, vous savez, déjà la plupart du temps, les gens pensent que les élections dans nos pays ne sont pas véritablement crédibles. Il n'y a pas de transparence. C'est ce que la plupart des gens disent. Qu'on vote ou pas, les résultats seront les mêmes. Ce sera le même parti qui va gagner. Et malgré que, bon, on ne voit pas des résultats. Mais bon, donc, à quoi bon aller voter si je sais que les résultats qui seront proclamés, hein, selon les dires des gens, hein, les résultats qui seront proclamés sont déjà, ont été déjà validés. Donc, mieux vaut rester à la maison, vaquer à mes occupations et puis la vie suit son cours. J'aimerais revenir sur quelque chose. Il y avait une frange de l'opposition, la frange défendue par Nathaniel Olympio, Front touche pas ma constitution, si je ne me trompe pas, qui avait dit qu'il ne participerait pas à des élections. Maintenant, l'autre partie de l'opposition avait demandé, compte tenu des événements, surtout aux événements des manifestations des 26, 27 et 28 juin, que les élections soient reportées. Ils n'étaient pas dans la dynamique de boycott. Eux, ils voulaient participer aux élections, mais que les élections soient reportées, que bon, on aplanisse les divergences avant de penser quand même à organiser ces élections.
Mais tout
ce qui n'a pas été fait.
Tout cela pouvait quand même influencer.
Mais ce n'est pas ça la véritable raison. Depuis les élections de 2018 jusqu'alors, le taux de participation, l'affluence, ça va décrescendo. Germain vient de dire quelque chose de très important. Il y a un désintérêt de la jeunesse. Ce sont les jeunes plutôt. Qui, préoccupés par l'avenir de leur pays, se disent, bon, si je mets telle personne à tel poste, ben, il va bien conduire les affaires du pays. Mais si les jeunes se désintéressent de la politique, qu'est-ce que ça va être? Et spécifiquement pour ces élections municipales-là, il y a véritablement eu de problèmes. Les manifestations qui n'ont pas véritablement permis à ce que les populations, qu'il y ait une certaine émulation autour de ces élections-là. Ensuite, il y a le désintérêt. Le désintérêt, les gens te disent, bon, à quoi bon alors voter? On a voté pendant très longtemps, mais ça n'a donné aucun résultat. Les gens sont dans cette idéologie-là. Et on peut dire que il y a quelque chose qu'il faut faire. Hein, il faut véritablement, moi je le disais hier, qu'il faut qu'on crée un creuset national pour essayer de régler les problèmes du pays. Pourquoi pas ouvrir un grand cadre de dialogue inclusif pour que nous puissions discuter, un cadre qui va rassembler toutes les forces vives de la nation pour qu'on puisse discuter des problèmes du pays, pour que les populations se sentent véritablement en confiance d'aller aux élections. Parce que du moment où une population ne fait plus confiance aux urnes, ça devient dangereux. Le mode d'accession au pouvoir, c'est par les urnes. Alors pourquoi ne pas faire confiance aux urnes? Si la jeunesse ou bien les populations togolaises n'arrivent plus à faire confiance aux urnes, ça veut dire que véritablement, il y a un problème qu'il faut résoudre. Le problème de mise en confiance de cette population-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Pourquoi les gens aujourd'hui, d'autres, ils se disent non, ceux qui sont au pouvoir, ils sont là pour leur ventre, ils mettent de l'argent dans la poche. D'autres, ils se disent bon, les opposants, eux aussi, veulent venir au pouvoir pour nous voler ou bien ils sont déjà corrompus. Comment cela se fait qu'on en arrive là? Il faut véritablement y penser, créer un grand creuset national pour qu'on arrive à mettre tous les problèmes dedans, qu'on en discute, qu'on aplanisse les divergences, ceux qui doivent être amnistiés et qu'ils soient amnistiés, ceux qui peuvent rentrer et qu'ils rentrent au pays et tout, pour que le pays redémarre de nouveau. Sinon, ce sont les élections municipales, et les élections municipales sont censées créer beaucoup plus d'émulation. Parce que les gens se disent, mais c'est des CDQ, c'est des autres là.
Parce que c'est pour les communautés.
C'est pour les communautés. Mais comment se fait-il que les gens se désintéressent aussi de ça? Malgré le fait que, bon, leur propre frère ait participé à ces élections-là. Donc, il y a un véritable problème à résoudre, le problème de confiance aux élections à résoudre au pays. D'accord. Et pour moi, c'est un peu ça le premier problème à gérer.
Merci, Germain. Oui, mais Germain, au-delà de tout, c'est vrai, il y a Germain qui a touché aussi un point très important, c'est bien l'offre politique. Et est-ce que vous avez aussi l'impression que pour ce qui concerne l'offre politique, c'est-à-dire le discours et tout ce que les projets de société ou le programme de société, est-ce que tout cela arrive à créer de l'émulation et à inciter surtout l'électeur, à adhérer à quelque chose de ce genre?
Non, moi quand je suis dit Germain, je suis pas Germain, pour les Gabin Adjaro, moi je suis un peu surpris. En fait, ce qui se passe au Togo n'est rien d'extraordinaire.
Toi, tu es toujours surpris.
Oui, mais ce qui se passe au Togo, c'est rien d'extraordinaire. En fait, la politique au Togo, le fait que les gens ne s'intéressent plus à la politique, c'est la chose la plus normale. En Espagne, il y a une année où on a fait les élections, c'était toute participation était à 39%. En France, tout dernièrement, c'était 55%.
Ça doit nous interpeller, même
oui,
s'il
oui,
y a
eu... C'est-à-dire, vous pouvez proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Les dirigeants, ils sont perdus. Alors, il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont perdus parce que quoi? Je l'ai dit, le problème, au niveau du plan mondial, le problème est beaucoup plus démographique. Les gens sont de plus en plus nombreux, mais au niveau de la cagnotte, il n'y a pas grand-chose. Les dirigeants n'arrivent plus à satisfaire. Les dirigeants n'arrivent plus à honorer leurs engagements auxquels ils souscrivent pendant les campagnes. Vous avez une population énormissime, mais de l'autre côté, vous n'avez rien dans la caisse. Vous voyez comment ce qui se passe avec Donald Trump, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'arrivent pas à satisfaire les Américains sur le plan emploi. Il faut qu'ils chassent les étrangers. Au niveau de la Grande-Bretagne, moi je vous disais l'autre fois, je ne sais pas si c'est ici, j'ai des amis au niveau de la Grande-Bretagne, on dit maintenant la police est en train de déporter des gens régulièrement parce qu'au niveau de l'emploi, ça chauffe. Donc on veut garder l'emploi pour les nationaux.
Mais au Togo,
pourquoi? C'est pour ça que moi, quand ça se passe comme ça, moi ça ne me dit pas grand-chose. Quand on dit confiance, tout ça, là, mais ce n'est pas le Togo seulement. En France, les gens n'ont plus confiance en Emmanuel Macron. Des millions de Français ne font plus confiance en Emmanuel Macron. Des millions de Français. Aujourd'hui, ça a commencé aussi avec Donald Trump. Mais moi, au niveau de Donald Trump, ça commence pas à chauffer.
Mais déjà. Oui, le souci, c'est que ne pas avoir confiance en nos politiques, ça doit interpeller ces politiques. C'est de ça qu'il s'agit.
Oui, mais ça les interpelle. Moi, je me dis, je ne suis pas sceptique, mais il sera difficile. Il ne sera difficile de pouvoir s'en sortir. Il ne sera tellement difficile. Parce qu'en fait, le problème est démographique. Les pays n'ont plus d'argent. Vous imaginez, les pays n'ont plus d'argent. C'est pas que je suis en train de dédouaner le gouvernement togolais ou le gouvernement français, encore moins le gouvernement américain, mais c'est que les pays n'ont plus d'argent. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ben, à l'avenir, le taux de participation sera encore plus maigre. Aujourd'hui, peut-être la CENI nous dit peut-être 60% ou 70%, mais à l'avenir, ça va aller à décrescendo. Parce que autant, regardez par exemple, aujourd'hui au Togo, il y a de nouveaux quartiers qui se créent. Il y a de nouveaux quartiers qui se créent. Il y a de nouvelles maisons qui se construisent. Quand vous allez au niveau des naissances, ça naît tous les jours. On a de nouvelles naissances. Est-ce que le gouvernement togolais, là, quand on parle de la dette, le gouvernement va sur le marché pour chercher de l'argent, tout ça, c'est parce qu'en réalité, le gouvernement n'arrive plus à s'en sortir. Donc le fait que les gens ne s'intéressent plus à la politique, c'est pour moi, c'est la chose la plus normale. Pour moi, c'est la chose la plus normale. Ça ne me dit pas grand-chose. Ce n'est pas un volcan qui a explosé quelque part. Non, pour moi, c'est la chose la plus normale. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, on dit que l'élection ne va rien changer, les élections ne vont rien changer au Togo. Parce que quoi, en réalité, les élections peuvent changer quelque chose. On dit non, on ne va plus participer aux élections parce qu'on va frauder. Mais en 1994, on pouvait frauder aussi. Mais l'opposition a participé activement. Et on a vu les résultats entre Edem Kodjo et Agbebo à l'époque. Moi, je me rappelle très bien la première élection à laquelle j'ai participé, bon, c'est-à-dire dont j'ai participé à la couverture, c'était en 2007. Jeune journaliste. L'opposition seule, AMC seule, avait 27 députés sur 81. Parce qu'elle a été. Pas un seul, mais aussi. Ça veut dire, elle y a travaillé. Est-ce que les années qui ont suivi, l'opposition a encore véritablement travaillé? Quand vous êtes dans ce jeu, on ne participe pas, on demande report, on ne veut pas participer. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais ceux-là, unis, ne dorment pas. Les autres vont pas. Les autres vont voir à votre place. Moi, je me dis, par exemple, je rappelle toujours cette phrase de Fonia Singbe, en 2005, lorsqu'il s'était agi de former un gouvernement d'union nationale. On avait nommé, non, on n'avait pas encore nommé Edem Kodjo comme premier ministre, mais on avait demandé à l'opposition de proposer un nom, par exemple. Et ça traînait. Et Fonia Singbe disait, à l'époque, moi, je me rappelle toujours cette phrase. Il dit, soit vous venez, on avance ensemble. Soit vous ne venez pas, on avance sans vous. Et je pense que c'est ce qui se passe. Juste l'opposition doit savoir qu'elle est perdue. Il faut qu'elle se refasse peau neuve.
D'accord. C'est vrai que cette question de désintéressement à la chose politique, ça se pose hein, depuis là, avec les élections d'hier. On a encore constaté cela. Mais est-ce que, d'une part, les politiques n'ont pas déçu?
Je pense que le désintéressement à la chose politique est la responsabilité des gouvernants, surtout au Togo où les gouvernants sont au pouvoir pendant très longtemps. Parce que tout le monde, c'est devenu courant d'entendre les populations dire que quel que soit le résultat, quel que soit le vote, ce sera un résultat auquel ils ne croiront pas. Il se dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'urne qui sort. Donc, il appartient au gouvernant d'assurer que c'est ce qui rentre dans l'urne qui sort. Pour que les gens comprennent que leur vote a un pouvoir sur la direction que prend le pays. Ça, c'est important. Que les gouvernants assurent ça. Maintenant, en général aussi, il y a une stratégie que... Un certain parti politique a compris, qui consiste à démobiliser les militants des camps, du camp d'en face. C'est également une stratégie politique qui se fait et que malheureusement les gens ne comprennent pas au Togo. Les militants d'un certain parti politique disent que quel que soit ce que vous allez faire, on va vous gagner. Et ça finit par prendre le dessus dans la mentalité des gens. Comme l'a rappelé M. Gabin, il y a aussi ceux de l'opposition qui disent que les élections ne sont pas la solution. Donc, la perception des élections n'est pas la mieux située dans la tête des populations. Maintenant, l'opposition doit également corriger, doit se faire le devoir de corriger cette perception des élections. Par exemple, quand d'autres disent tous les jours qu'il ne faut pas aller aux élections pour telle ou telle raison, on n'a pas vu chez nous qui avons participé, cette effervescence a martelé vraiment les raisons pour lesquelles il fallait aller à ces élections. Par exemple, pour nous, par exemple, surtout dans le Golfe 2, le Golfe 3, surtout à la Voix des Sans Voix, nous pensons qu'il faut participer à ces élections. Et nous ne sommes pas d'accord sur les conditions d'organisation, mais quand même, il faut participer, tirer notre épingle du jeu, avoir des attitudes exemplaires dans la gouvernance locale, représenter les gens qui n'ont pas la voix, c'est-à-dire nous sommes leur voix, et démontrer une façon de penser le développement en tant qu'élu. Faire rêver les populations quand nous sommes à la charge des communes pour que prochainement, les choses aillent mieux. C'est aussi vrai que, comme l'a dit M. Tekou, il y a eu des situations où on n'a pas pu négocier un certain nombre de choses, accepter des deals et expliquer les raisons de cette deal-là aux populations. Par exemple, quand il y a des contestations et qu'au final, le pouvoir cède et vous dit de venir à la table des négociations, il faut y aller. C'est ce que le père, j'oublie un peu son nom, il y a un père qui a sorti des déclarations récemment. C'est ce que le père l'a dit. Que,
vous voulez parler du père Gapé?
Justement. Il dit que quand on donne des conseils...
C'est Séverin Gapé.
Quand on donne des conseils à l'opposition, il faut que l'opposition arrive à accepter un minimum. Ne pas dire on veut avoir tout ou rien. Sachant que vous pourrez avoir tout. Mais le tout là, ce n'est pas sûr. Alors que le minimum pour l'avoir est continuer et continuer le combat. Ce qui a fait que l'opposition a toujours a été fragilisée et ses militants se sont amaigris. La plupart ont rejoint le pouvoir et en rejoignant le pouvoir, malheureusement, ils ne continuent pas sur les valeurs qu'ils défendaient quand ils étaient dans l'opposition. Par exemple, quand l'UFC est rentré au pouvoir, on ne les a jamais plus sentis continuer pas à défendre ces valeurs-là qu'ils défendaient à un certain moment où ils avaient et le vent en poupe.
Est-ce que finalement, quand on fait justement cette collaboration avec le pouvoir, est-ce qu'on aura justement cette conviction de le faire comme avant?
Vous savez, quand vous rentrez et dans un mariage et que ça ne vous plaît pas, vous divorcez. Quand vous allez, il faut quand même continuer pas professer vos valeurs. Il faut continuer pas se comporter selon vos valeurs. Il y a eu un certain nombre de décisions que les partis, en tout cas, autant pour moi, pour ne pas singulariser sur l'UFC, que des partis qui ont accepté aller au pouvoir et n'ont pas. Ont dévoyé. C'est-à-dire qu'ils avaient des convictions qu'ils n'ont plus respectées du tout. Les gens se demandent, mais c'est ceux-ci qui continuent, qui parlent de la sorte, ils n'ont plus aucunement défendu ces valeurs-là. C'est vrai que celui avec qui vous allez en accord, il a des raisons. Par exemple, la dernière fois, le plus grand débauchage des derniers temps, c'est le maire Gomado. Mais curieusement, moi depuis, je n'ai pas senti parler des thèmes qui étaient le sien quand il était de l'UFC à l'ANC. Comment est-ce que maintenant les populations vont croire en vous? Ce qui fait que quand il y a des accords, les gens disent attention, c'est pour aller à la mangeoire. C'est vrai, quand vous allez en tant que ministre, vous avez vos salaires. Mais ça ne vous empêche pas de continuer pas défendre vos valeurs et même faire les plaidoyers.
Mais est-ce que vous imaginez qu'on peut être dans un gouvernement et critiquer tout ce
gouvernement? Non, pas critiquer, mais continuer pas faire le plaidoyer pour que les bonnes valeurs. Par exemple, si vous dites que.
Mais faire le plaidoyer, vous serez mal vu.
Ça dit que si vous êtes mal vu pour le bonheur des populations. Tant mieux que, à la longue, la population là même vous rejette.
D'accord.
Vous comprenez?
D'accord. Oui, jamais. Est-ce que notre politique est atypique?
Non, il n'y a rien d'atypique, mais ça peut être un peu spécial aussi. Vous savez que notre pays est l'un des rares qui n'a pas connu l'alternance ces 20 dernières années. Vous avez un pays comme le Japon qui a fait 40 ans avant de connaître l'alternance, il y a quelques années, Japon. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Mais en même temps, ça montre aussi la façon dont les gens font la politique au Togo. D'ailleurs, on est sorti de la conférence nationale avec l'opposition qui est arrivée au pouvoir pour gérer la transition. Et la dernière fois, on a vécu certains de ces aspects. Quand des internautes s'attaquaient à des ethnies, tout ça. Ça s'est passé et ça a changé le cours de la démocratie au Togo. C'est ça qui a tué les premiers dirigeants de l'opposition. Je ne vais pas revenir sur ces détails. Mmh. Ceux qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle. Et depuis, on est resté dans un système nord-sud jusqu'à l'arrivée d'un certain Faure Gnassingbé qui crée UNIR symboliquement dans le plateau et qui déstabilise totalement l'opposition. Avant, après la région maritime, le fief de l'opposition, c'était le plateau. UNIR a tout raclé là-bas. Et donc, c'est partir de là, de la création d'UNIR. Vous avez vu des débauchages. Aujourd'hui, la plupart des cadres UNIR, c'était des anciens cadres de l'opposition. Et ça continue. Aujourd'hui, quand on voit la scission de l'ANC, c'est vrai qu'il parle du maire Gomado, mais on n'a plus besoin d'une opposition frontale dans notre pays africain. Le problème de nos pays, ce n'est pas l'alternance, ce n'est pas la démocratie, c'est la pauvreté. On fait la démocratie, les gens votent. Certains partenaires nous félicitent, les élections ont réussi, mais est-ce que les gens mangent à leur faim? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, il faut travailler pour régler les problèmes des gens. Et quand vous voyez la liste Tovia, le mouvement que j'ai vu, lui, il est dans cette logique. Ce n'est pas dans une opposition frontale comme UFC et ANC, qui finalement, les deux parties ont perdu des plumes. Vous voyez un peu comment l'ANC est en chute libre, un peu comme l'UFC. Et certains disent qu'il faut un rajeunissement de position, il faut de nouvelles idées. Je reviens encore là-dessus parce qu'il faut qu'il y ait de nouvelles offres pour que de nouveaux leaders émergent dans l'opposition. Si on a les mêmes leaders qui ont les mêmes offres, qui n'est un discours inaudible aujourd'hui. Avant, on disait, bon, c'est Kantan Denya Singe. Aujourd'hui, ce discours ne dit plus rien aux gens. Vous voyez un peu, mais il faut dire autre chose. Il faut dire autre chose.
Qu'est-ce que venez proposer autre chose.
Qu'est-ce que vous venez pour faire pour que les gens trouvent à manger malgré la vie chère? C'est ça qui intéresse les gens. Vous ne pouvez pas dire, bon, on n'a rien fait. Les gens font 20 ans, ils n'ont rien fait. Vous le dites, mais les Togolais savent que quelque chose a été fait en 20 ans. Vous n'êtes pas crédible quand vous dites que rien n'est fait. Les gens ont faim, oui, il y a la vie chère. Ça, c'est une réalité. Mais dire que rien n'est fait, vous n'êtes pas crédible. Il faut dire, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, on pourra faire mieux en faisant ceci, en trouvant l'argent ici, en investissant là, avec un truc sérieux. C'est pour ça que je parlais de Ousmane Sonko. Mais il a dit des choses. Là, il a des difficultés au Sénégal, c'est vrai. Il s'en prend au président pour essayer de reprendre un peu, se rattraper. Mais il a dit des choses qui ont tellement accroché des Sénégalais. Ils ont dit, donnons-lui le pouvoir. Donnons-lui le pouvoir. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans l'opposition. Ce n'est pas quelque chose d'atypique. Nous sommes avec une opposition qui ne pourra plus faire l'alternance. Parce qu'elle est trop faible pour faire l'alternance. Avant, elle était forte. Firmin en parlait. La première alternance, c'était en 1994, quand l'UFC et le CAR, et quand l'UTD et le CAR ont réussi. Mais ils avaient déjà la transition. Ils ont eu le pouvoir qu'ils ont remis au président Yadema à l'époque. Vous voyez, donc, et depuis, tous ces partis-là ont vu leur score baisser. Et donc, les gens, vous savez, avant le CAR, c'était un parti national. Il était implanté dans tout le pays. C'est comme ça qu'il a pu menacer le RPT aux législatives de 1994. Aujourd'hui, les partis d'opposition que vous avez vérifier à la CENI, vous avez presque 40 communes dans lesquelles ils ne sont même pas candidats. Ils sont incapables d'avoir des candidats. À l'intérieur du pays, il y a des communes où ils n'ont rien, c'est tout ça, ils n'ont personne, même pas un candidat. Ça veut dire que ce n'est pas des partis qui sont implantés sur le plan national. Ces résultats, vous allez le voir, Unir gagne au moins 40 communes, même avant le dépouillement. Parce qu'ils n'ont pas d'adversaire. Ils n'ont pas d'adversaire dans ces communes. L'opposition est incapable de mettre des candidats. Ça, c'est la réalité. On ne le dit pas beaucoup, mais les gens sont beaucoup plus à Lomé. Vous voyez, les opposants sont à Lomé, et puis ils sont dans les localités d'origine de leurs leaders. C'est tout. Voyez, si le gars est de, je ne sais où, peut-être de Tablibo, vous verrez qu'il est à Lomé. Il est à Tablibo. C'est terminé. Dans les autres villes, on a une opposition faible. Mais en même temps, on n'a pas intérêt à avoir une telle opposition parce que nous sommes dans un régime où nous avons besoin aussi qu'il y ait une opposition qui pousse ceux qui sont au pouvoir donc à travailler. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle offre, il faut que de nouvelles énergies se dégagent. Il y a des gens qui ont des idées, peut-être qu'ils ne veulent pas faire la politique, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, mais il faut qu'on arrive à avoir une opposition. Mais en même temps, je crois que l'Afrique n'a plus besoin d'opposition frontale, comme on dit. Vous avez vu certains penseurs aujourd'hui qui n'aiment même plus le terme « opposition ». Ils disent de supprimer ça même du vocabulaire politique pour parler un peu de droite, gauche et tout ce qu'on veut. Parce qu'on a comme l'impression que l'opposant, son rôle, c'est d'empêcher le pouvoir de diriger. Mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est d'être une alternative, c'est une force de proposition. C'est aider à travers les critiques. Et là aussi, l'État a le devoir aussi de financer les partis politiques de l'opposition pour qu'ils aient les moyens de jouer leur rôle. Et là, je fais peut-être un parallèle avec la presse. L'État a le devoir aussi de financer la presse pour qu'elle soit aussi une presse forte pour qu'elle puisse contribuer. Peut-être avec la 5e République, il faudra peut-être arriver à cela. Mais l'opposition que nous avons aujourd'hui, Il y a plein de cadres et de militants qui ont basculé du côté du pouvoir. Les autres sont totalement désintéressés par ce que fait l'opposition. Donc, mais je crois qu'il y a espoir, peut-être, s'il y a de nouvelles idées, s'il y a un nouveau personnel.
Merci, Jamer. Oui, d'abord, la même question hein, pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que nous avons une politique atypique?
Oui, je peux le dire, que nous avons une politique atypique. Parce que le Togolais lui-même n'a jamais voté pour un programme de société. Il faut le dire, hein. Le Togolais a toujours voté pour un leader, le visage de quelqu'un. Et le Togolais ne vote pas pour un programme politique, ni encore pour le bilan. Parce qu'on est en train de parler des élections municipales. Si on veut tenir compte de bilan, pendant que les gens disent que non, rien n'a été fait sur le terrain, une IRA a occupé combien de communes? Pratiquement 113 et l'opposition à peine 4 communes. Vous voyez un peu? Mais si les gens disent que non, le bilan de ces élections municipales passées en 2019 ont été désastreuses, c'est imputé à qui? La plus grande responsabilité, c'est imputé à qui? Moi, je vois que notre situation politique est très atypique, d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens ne votent plus depuis 2018, parce que ces mêmes populations togolaises qui avaient demandé à l'opposition de ne pas participer aux élections en 2018, sinon, ils seraient lynchés tout comme le pouvoir, parce que ils se disent, celui-là qui avait lancé les manifestations, le vrai leader politique Tipi Hachadam n'était pas là. Donc, les leaders qui sont restés au pays pour ne pas trahir Tipi Hachadam ne doit pas participer aux élections. Et c'est à cause de ça que les leaders traditionnels en ce moment n'avaient pas participé aux élections. C'est pourquoi on a assisté à des histoires, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. En 2019, les leaders de l'opposition n'ont plus voulu commettre la même erreur en disant que non, les populations disent qu'il ne faut pas participer aux élections. C'est pourquoi cette opposition-là était revenue pour participer aux municipales. Et heureusement, ils ont eu des conseillers municipaux, même jusqu'à l'intérieur du PA, enfin, et autres, là, après qu'il y a eu des décès, certains maires ont été changés et tout. Mais il faut dire que l'opposition avait fait un score. Maintenant, après, il y a eu des situations législatives passées. Ça n'a pas véritablement aidé aussi l'opposition parce qu'il y avait 2020 qui était déjà passé. Et l'opposition elle-même, certains partis de l'opposition, s'étaient beaucoup plus acharnés contre un leader. Et le leader, là, c'était Jean-Pierre Fabre. Je vais citer son nom. Les gens avaient beaucoup plus participé à le détruire en disant des choses, qu'il avait pris l'argent, qu'il a fait ceci, qu'il était corrompu, sans pour autant apporter des preuves. Et la population, étant inculte politiquement, a cru à ces allégations-là contre Jean-Pierre Fabre.
Mais est-ce que c'est aujourd'hui la particularité de notre politique?
C'est pourquoi je dis que notre politique est atypique. Parce que les populations croient à des délations qu'on raconte sur les gens.
Il y avait Monseigneur Poitras aussi certaines qui avait personnes, le même discours. Hein.
Certaines personnes se sont beaucoup plus acharnées contre quelqu'un et disant que non, voilà quoi, il a fait ceci, il a fait cela, sans pour autant dire que bon, factuellement, c'est ce que j'ai eu à voir, la personne a commis telle faute. Mais pour les élections municipales là, quand vous prenez Golf 4, je n'en veux pour preuve que ça, la mairie a réalisé des choses. L'école primaire de Boka a été reconstruite, la maternité de Wetribikondi a été refaite, l'ambulance a été dotée, de nouveaux lits en commande ont été apportés, des bouches d'incendie qui ont été construites dans pratiquement les marchés qui sont dans les communes, et il y a des établissements qui sont aussi construits dans ces communes-là qui, avant, étaient juste des apatames. Vous voyez un peu? Donc, on ne peut pas dire que ces personnes n'ont pas apporté des résultats, malgré le fait qu'il y a eu des lourdeurs au niveau de l'État aussi, avec des histoires de Anazap, d'Agle et autres, là. D'Agle qui n'avait véritablement pris fonction que l'année passée. Il n'y a pas eu la création de bureaux du citoyen aussi. Donc, du coup, le Togolais doit se cultiver politiquement pour comprendre véritablement que, bon, les choses ont changé. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ces leaders-là sont encore dans la lutte frontale. Je ne suis pas sûr. Malgré, bon, il y a encore les Thomas Soukoué, les DMK et autres là, qui sont dans la lutte frontale. Mais les autres leaders charismatiques ont aujourd'hui compris qu'il faut aller vers une politique beaucoup plus civilisée. Mais les populations ne comprennent pas. Et les gens ont toujours entendu ce langage-là, que non, ceux-là qui sont au pouvoir, ce sont des gens qui ne sont pas crédibles. Ceux de l'opposition, ce sont des gens qui sont corrompus. Et on est dans cette histoire-là, d'un côté comme de l'autre. Il y a encore des gens
qui ne veulent pas faire une politique beaucoup plus flexible, beaucoup plus attrayante pour la population. Mais si on en est arrivé là, c'est à cause de la population. C'est à cause de la population. La population n'est pas sainte dans cette histoire. Hein.
Non, c'est
la population qui a poussé. C'est la population qui, à un moment donné, a poussé l'opposition et le pouvoir à se regarder en chien de faïence. Ce qui fait que même aujourd'hui, si quelqu'un quitte l'opposition et veut apporter de son expertise au pouvoir, quand il rentre dans le gouvernement, les gens confondent directement le parti au pouvoir au gouvernement.
Mais est-ce que ce ne sont pas des acteurs eux-mêmes qui ont éduqué la population comme cela? Oui, mais... Firmin, est-ce qu'il y a une particularité justement de notre politique?
La particularité... Bon, la particularité, peut-être, on peut la trouver comme cela. Bon, moi, je me dis, peut-être au début des années 90, l'erreur que les Togolais ont commise, c'est qu'on n'a pas réussi à construire une véritable opposition. C'est-à-dire, dans l'opposition, vous voyez des gens qui sont opposants, dont les Demkodjo, les Agbouibo, les Francis, qui étaient des opposants. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire, l'autre partie de l'opposition, c'était des activistes. C'est ça, en fait, qui a compliqué le problème à l'opposition. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on a, dans l'opposition, on a des gens qui sont opposants. Quand vous suivez leur discours, c'est vous sentez en eux des opposants. L'opposant, c'est quoi? L'opposant, c'est celui-là qui constitue une alternative crédible, qui peut proposer des choses, qui peut faire des critiques, mais qui n'est pas dans l'activisme. Et de l'autre côté aussi, vous avez les activistes de l'opposition. C'est ça. Et en force de toutes ces deux entités, il y a le parti au pouvoir qui fait de la politique. C'est-à-dire, quand l'activisme et la politique s'y mêlent, le parti au pouvoir, lui, ça, il est là, il vous suit. Vous vous amusez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des opposants qui, entre eux, s'entretuent, s'entredéchirent. C'est ce qui renforce le parti au pouvoir. Mais d'un autre côté, on parle de désintérêt. Mais est-ce que vous êtes sûr que le désintérêt dont on parle, est-ce qu'on peut l'observer au niveau des plateaux? Demandez à Kokoroko s'il peut observer un désintérêt. Demandez à Kugan s'il peut observer un désintérêt entre les politiques et la population. Allez
à Klassou, à Tengue.
À Klassou, à Tengue. Mais demandez à ceux-là qui sont dans la centrale, au niveau des savanes, s'il y a un désintérêt. Je pense que le problème au Togo, on croit que la politique, c'est seulement à Lomé. Par exemple, dans les plateaux, il n'y avait pas les Kokoroko en 2007. Il n'y avait pas les plus grands en 2007. Il n'y avait pas les Tengue en 2007. Mais toutes ces parties-là étaient presque pour l'opposition. Mais dans la centrale, l'opposition avait des mots, avait son mot à dire. L'opposition avait ses représentants dans la centrale. Les Ouro Akpo Tchanyao, qui étaient de l'ANC ou peut-être de l'UFC à l'époque. Mais regardez aujourd'hui, la donne a changé. Au moment où l'opposition s'amuse, se lance dans l'activisme, dans les plateaux, le parti au pouvoir est sérieux avec une émergence de nouvelles têtes, dont les Kokoroko, les Kugan, les Tengue. Et
développement.
Non, c'est pas. On parle de
politique.
Donc, vous voyez, par exemple, donc le désintérêt dont on parle, c'est seulement, je pense, c'est seulement dans la capitale, mais à l'intérieur, il y a toujours une foule qui suit unie. Ne nous trompons pas. Au-delà de tout ce qu'on peut dire. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne s'amusent pas. Ils font de la politique. L'opposition, en grande partie, est dans l'activisme.
Oui, ce désintérêt, c'est vrai que vous avez demandé la parole depuis pour se prononcer alors sur cette question, surtout de la particularité de la politique togolaise.
La particularité de la politique togolaise, c'est le manque de vision des gouvernants et des nouveaux gouvernants. Les nouveaux gouvernants, ils ont apporté quoi? Ceux qui ont rejoint l'opposition, ou bien les nouvelles trouvailles du premier des Togolais. Le premier des Togolais, il a attiré des gens. Mais ces gens ont apporté quoi? C'est pourquoi je disais tantôt que quand les gens vont finalement au gouvernement, on ne les sent plus ni sur les questions sociétales. Quand on a battu les femmes lors des manifestations, on n'a senti aucune femme se prononcer. Sur la vie chère, quelles sont les propositions que les nouvelles têtes du gouvernement disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont exprimé, proposé dans l'espace public? Donc, c'est le manque de vision des gouvernants. C'est ça l'atypisme de notre politique. Vous savez, au Bénin, on a créé suite alors en matière politique. Mais en matière de développement aujourd'hui, on sait que il a fait bouger les lignes. Même sur le plan politique, il a changé la donnée. Il les a conduits quand même dans un sens. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Au Qatar,
où c'est un pays où il y a où règnent des rois, n'est-ce pas, ou bien des sultans, qu'ils ont plein pouvoir. Mais ils sont allés dans une direction, ils ont organisé la Coupe du Monde. Au Burkina, avec l'avènement de Traoré, on dit que ce n'est pas démocratique, mais quand même, on sent qu'il va dans une direction donnée. Donc, l'atypisme, moi, je pense que c'est du fait des gouvernants actuels qui n'ont pas réussi à nous proposer quelque chose de mieux. Peut-être que le premier des Togolais a attiré de nouvelles têtes, mais eux aussi, ils sont tombés dans la soupe. Donc, il appartient encore au premier des Togolais de voir ce qu'il peut faire. Et lui-même doit pouvoir donner un cap. Moi, je ne me sens pas qu'il donne un cap à ce pays sur le plan politique et comme sur le plan du développement.
C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il y a eu une vision bien définie?
Peut-être qu'au début, il y a eu une effervescence. Mais ça s'est ramolli. Beaucoup de personnes sont déçues. Et c'est pour cela qu'il y a eu même des activistes, que vous dites, les blogueurs, beaucoup plus de son camp. Pas, je ne veux pas parler seulement de son camp ethnique, mais de son parti politique. Ceux qui aujourd'hui sont sur la toile et critiquent le gouvernement, qui appelle à des manifestations, au boycott, assis ici, ils étaient quand même, à ce moment, partisans de Uni. Donc, il va falloir que le premier des Togolais fasse quelque chose d'autre. Et quand quelqu'un vient au gouvernement, qu'il propose réellement des solutions au lieu que de penser à leur ventre et à leur bas-ventre, comme l'a dit le père Gapé. C'est ça, hein? C'est le père Gapé. Hein?
Merci, cher confrère, puisqu'il est déjà midi. Je sais que Germain voulait justement parler, mais il est déjà midi. On va donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va pas, la grâce de Dieu, chez vous?
Je vais bien, et nous?
Votre nom c'est?
Nous, de Gomé.
Nous? Dadido Gomé.
Oui.
Allez-y.
Ce que je disais, je voudrais dire vos camarades journalistes qui sont là-bas. En fait, quand on dit, on compare quelque chose, on compare deux choses.
Allô?
Est-ce que vous comprenez?
Allô?
Oui, je continue.
Oui, mais allez-y rapidement, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne.
Quand Germain trouve maintenant que pour faire quelque chose, il n'a qu'à prendre 20 ans et 10 ans du Burkina, du Bénin. Bénin fait deux fois le Togo. Une petite plus haut Togo aussi, pour sortir aller au service, tu ne peux pas aller au service. C'est comme ça qu'on compare les choses. Merci
beaucoup, Léo, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, sir.
C'est Sylvain?
C'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Oui, je salue tous les autres confrères. Je ne suis jamais pour qui a cité une station concert pour vous rejoindre. Merci pour ça, à vous. Bon, ce désespérissement-là, Est-ce que le pouvoir va prendre ça en compte? Pour dire une fois, ce qu'on ferme notre laboratoire de fabrication des résultats des élections au Togo, et puis on passe la mer. Ils ont tout essayé, ils ont tout donné. Maintenant, le mieux, c'est de passer la mer. Ce n'est pas Gagababo qui constitue le problème togolais, c'est plutôt peut-être le pouvoir soixantenaire. Il faut qu'on passe à autre chose. Les Togolais n'ont pas finalement soif d'alternance. mais plutôt ont fait l'alternance. C'est ça qui explique tout. Si on a un laboratoire, on fabrique des résultats des élections au Togo, ça ne passe pas. C'est l'impression que les Togolais ont.
Merci beaucoup Sylvain. 90-86-35-35, 91-36-33-115, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Et je vais bien aussi, vous?
Ça va aussi, c'est Benoît.
Oui, grand
frère. Benoît Dagoué, allez-y Benoît.
Il faut que, pour avoir la confiance des Togolais, j'interpelle Unis à revoir les cartes, à s'asseoir. Ce que les gens trouvent que le président Faure est le problème du Togo. Le fait d'avoir 108 députés et après de laisser le poste du président de la République et aller vers le poste du président du Conseil et rester toujours au pouvoir a vraiment découragé les gens. Si Unir va bien faire, ils n'ont qu'à copier les gens du Bénin au moment de leur conférence nationale, le président Faure n'a qu'à se retirer, on va organiser une élection libre et transparente. Si vraiment le peuple est derrière eux, et le peuple soutient le président Faure, si comme l'élection serait transparente, si le peuple aime vraiment le président Faure, il va revenir et la tendance va prendre une autre chemin.
D'accord.
Ou bien notre chemin.
Merci beaucoup, Benoît. Je suis désolé qu'un journaliste togolais puisse dire que la population en âge de voter à Lomé soit en dessous d'un million. Renseignez-vous auprès des CELI de Lomé, même à l'intérieur, c'est pareil, pas d'engouement. C'est le total désintérêt pour le vote, très dommage pour notre pays. Depuis 20 ans, l'UNIR et son gouvernement n'ont fait que se remplir les poches en pillant les ressources, en détruisant l'opposition pour le maire Fabre du Golfe 4. Son péché mignon, c'est ne pas s'intéresser au football. Je fais allusion aux équipes attentes de équipes étoiles filantes, etc. C'est Innocent qui nous écrit. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Bonjour, Bazar.
Basile, bonjour, comment tu vas?
Ouais, je vais complètement bien.
D'accord, allez-y.
Je salue vos confrères là-bas.
D'accord.
Ouais, mais ils disent tout, sauf qu'ils ne connaissent jamais que leur employé qui se trouve être le parti au pouvoir, c'est le jour des élections qu'il fait. Hier, vous avez tout vu. Hier, vous avez tout vu. Désintéressement. Moi, je n'ai pas été voté. J'ai dit ça hier sur d'autres antennes déjà. J'ai fait l'expérience là avec les législatives. Et c'est les ministres, les gros bas qui viennent terminer les élections. Encore que moi, j'ai mis à chaque côté une grande partie de Babou, plusieurs villages, étant le chef suprême pour superviser les élections. Je sais de quoi je parle. Quand ils viennent, ils émènent les gens.
Ok, merci beaucoup Basile, merci 90, 86, 35, 35. Quand les Togolais disent que Faure n'a rien fait, c'est de façon objective et comparative. Et tant qu'il n'y a pas d'alternance dans un pays, il n'y a pas de développement, puisque tout concourt dans cette logique. Les Togolais sont fatigués, des élections fraudées, et voilà le vrai boycott. C'est l'homme qui nous écrit. Allô?
Oui, bonjour, Kanalatam.
Bonjour, comment vous allez, Nestor?
Je vais bien, oui, c'est Nestor depuis Agouen.
D'accord, allez-y.
Oui, je vais remercier les journalistes pour les analyses. Mais M. Pimer, il a parlé de la démographie, mais c'est faux. C'est juste que certains ont tellement mangé, tellement emmagasiné, que les autres, c'est-à-dire la majorité, tire le diable par la queue. C'est ça la vérité. Donc, je pense qu'il faut laisser l'opposition tranquille. Monsieur Germain, que certains quartiers seulement qui ont manifesté. Mais même à l'antenne là-bas, quand les journalistes viennent, ils disent que c'est pas tout qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils marchent sur les œufs. Donc, il faut comprendre cela. Donc, pour dire que Ce qu'on cherchait quand on était à l'école, les domaines de définition pour les fonctions qu'on nous, on nous donnait là, c'est la même chose. C'est-à-dire le domaine de définition est faussé. Pour dire que, par exemple, en Iran, quand il y a eu le crash du président, qu'est-ce que le gouvernement a fait? On a respecté la constitution. Merci, Canal FM.
Merci, Nestor. 90-86-35-35-91-36-63-75.
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado. Comment vous allez?
Bonjour, Plateau. Mais je crois que celui qui a expliqué l'histoire du Togo à monsieur Firmin Pouli, là, je crois qu'il les a mal expliqués. C'est pour qu'elles ont bien compris. C'est ça. À côté du Burkina, allez voir. Au Ghana, ici, allez voir. Pendant 20 ans, les gens n'ont pas aidé le président Faure. Moi, je vous dis la vérité. La preuve, la roue Lomé Bogan, où est ça? Après ça, a récolté quoi? Covid, l'agent de Covid, où est ça? Et puis, tout récemment, les hôpitaux, où est l'argent? Le marché, maïs, mitra. Et vous êtes là-bas, vous parlez où il y a, comme tout va.
Non, monsieur Gado. J'espère, il est très important quand même d'user de courtoisie quand on appelle, puisque vous êtes dans une grande émission, et quand vous voulez appeler, il faudrait tout simplement quand même respecter aussi ceux qui sont sur le plateau, et puisque nous essayons toujours alors de le faire ainsi, c'est très important. 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom c'est?
C'est monsieur Mathieu.
Pardon, monsieur Mathieu?
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle du centre-ville.
Pardon?
Centre-ville.
Centre-ville, concrètement où?
La zone d'Afidame.
D'accord, allez-y.
Ok, je vous remercie pour le débat. Tout ce qui se passe, toute position que chacun prend, bon, c'est dans le sens quand même d'arranger les choses pour le bien du pays. Donc peut-être dans les propos des gens, on peut déceler certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire. Mais l'objectif, c'est de parvenir à ce que nous puissions avoir un pays uni, prospère, pour tout le monde. Et je voudrais interpeller un peu M. Firmin. Vous savez, quand il y a un sujet qui concerne notre nation, je pense que dans la 5e République, on nous a dit que c'est une constitution qui est adaptée à nos réalités. J'ai bel et bien suivi M. Firmin au début des débats autour de la constitution. Et il a toujours défendu ce tellement de adapter les choses à nos réalités. Mais à chaque fois qu'il prend la parole, il prend l'exemple de la France, il prend l'exemple de la Belgique, il prend l'exemple de l'Allemagne et tout. Donc, nous, on ne maîtrise rien de tout ça. Et tout ce qu'il dit, rien ne prouve que c'est vrai ou c'est faux. Je pense que s'il veut vraiment qu'on comprenne la position qu'il prend, il faut toujours tenir compte de nos réalités également. Arrêtez les élections qui sont déroulées hier. Vous allez voir, c'est une honte nationale. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas bon pour un ou l'autre parti. Mais il s'agit de l'image du pays en question. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, pour parler de ce qui s'est passé hier, il faut qu'on soit objectif.
D'accord.
Les gens ont boycotté. Pour quelles raisons les gens ont boycotté? Mais quand moi j'ai suivi vos confrères, ils tentent à faire croire qu'en réalité, les gens ont boycotté l'opposition.
Est-ce que vous avez bien suivi, M. Mathieu?
J'ai bien suivi.
Mais chacun a donné son point de vue sur justement cette question.
Mathieu,
je voudrais que vous donniez aussi votre point de vue. Et vous avez assez donné votre point de vue. Merci beaucoup pour avoir donné votre point de vue. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom c'est.
Bérité depuis quand j'étais.
Pardon?
Bérité depuis le quand j'étais.
Décidément, nous avons du
Bérité.
Mal. Oui, mais nous avons du mal à vous écouter. Hein.
Permettez, héritier.
Héritier?
Oui.
Oui, allez-y.
Parlant de la démocratie que monsieur Firmin venait de.
Ah, il est parti.
90 86 35 35. Bonjour Pascal, merci pour l'émission. Cette élection est un référendum entre ceux qui ne veulent plus de ce régime séquentenaire répressif et de ceux qui sont accrochés de par leur intérêt personnel égoïste à cette malgouvernance. Et donc, les partisans de l'alternance et de la bonne gouvernance ont gagné hier par leur abstention dans les bureaux de vote. Puisque aller voter hier, c'est valider la 5e République et les Togolais ont dit non à la 5e République par leur abstention. Leur absence totale. C'est justement quelqu'un qui nous a écrit, bien sûr, ce message, mais il n'a pas signé. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est
Ben.
Ben, vous nous appelez de quel quartier?
Adidogome.
Allez-y, Ben.
Oui. Bonjour à tout le monde là-bas.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que les gens n'ont pas été aux urnes. Et il y a certains côté de vous là, au lieu d'analyser objectivement, dit n'importe quoi. Moi, c'est en 2005 que j'ai voté pour la première fois dans ma vie. On était au bureau de vote vers 16h quand les militaires sont venus prendre les urnes en 2010. Chaque fois quand j'appelle sur vos antennes, je fais ces deux remarques. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du séminaire? Et avec ça, vous voulez qu'on aille encore faire quoi? Vous croyez que pour l'élection d'hier, là, et que l'opposition gagnait, ils vont nous laisser? Continuez comme ça. Bonne émission à vous tous.
Ben,
vous mourir, vous allez
Ben.
Oui.
Bonne journée. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Je pense que maintenant, on peut avoir notre... Kiki, on peut avoir notre dernier auditeur, c'est ça? 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour. Monsieur Mauto.
Oui, monsieur Mauto.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Ce qui se passe au Togo, tout le monde le sait, mais on ne veut pas dire la vérité.
Oui, dites... Oui, monsieur Mauto. Monsieur Mauto.
Oui.
Maintenant, vous connaissez la vérité. Dites-nous la vérité.
Les Togolais n'ont plus confiance aux urnes. C'est pourquoi ils ont bouté les urnes hier. Les gens n'ont pas bouté. Donc, les gens tentent de comparer le Togo et l'Europe. Est-ce que la vérité des urnes est la vérité au Togo? Mais en Europe, on sait la vérité des urnes. C'est ça la différence. On ne sait jamais la vérité des urnes au Togo. Et les gens disent que bon, c'est la politique qu'on fait. Non, vous savez, c'est juste un peu qui bloque le pays. Donc, le Togo, nous avons un problème de la non-respect des lois de la République. On ne respecte aucune loi de la République au Togo. C'est le régime qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Vous le savez bien, mais on ne peut pas le dire. Pourquoi? Ce qui se passe au Togo, et au Ghana, et au Guinée, pourquoi nous, on ne va pas dire cela au Togo ici? Pourquoi? Qu'est-ce que nous allons faire à ce régime? Et ça, rien ne marche. Allez dans les marchés là. Vous allez voir avec vos propres yeux là. Ça ne marche pas du tout là.
D'accord. Merci beaucoup, M. Mauto, de nous avoir dit la vérité. Je pense que M. Mauto, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Mais je rappelle tout de même que, alors, notre émission, nous vous donnons la parole d'habitude pour que vous vous exprimiez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Chacun a sa manière d'analyser aussi les sujets. Et quand nous analysons aussi les sujets, nous vous donnons la parole pour que vous aussi, vous nous faites part alors de vos analyses sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Et il est très important que nous usons de courtoisie. C'est très important parce que le pays démocratique que nous voudrons construire, il faudrait quand même que chacun et son mot aussi à dire. Et quand l'autre dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec l'autre, il est très important qu'on le laisse le temps nécessaire de le dire et au-delà de tout, qu'on arrive à le concéder aussi sa part de vérité. Et, n'est-ce pas, mon cher ami Gabin Adiaro?
Oui, bien sûr que c'est cela. Nous sommes ici, on fait des analyses et maintenant, quand eux appellent aussi, ils font leur analyse sans pour autant attaquer ce que les autres ont eu à dire. Merci de m'avoir invité. J'aimerais encore lancer cet appel-là au chef de l'État, au président du Conseil, je suis habitué à cela, pour qu'il crée un grand cadre de dialogue et de concertation. Pas cette histoire de CPC, qu'on crée véritablement un cadre où toutes les couches seront représentées pour qu'on discute des problèmes de la nation afin que le pays puisse redémarrer de nouveau parce que ce qu'on est en train de voir actuellement, l'horizon c'est sombre, mais je vais dire pour finir que Dieu bénisse le Togo.
D'accord, merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Togo. Ça, c'est encore très intéressant. Oui, Firmin.
Vous avez rencontré quelqu'un un jour qui m'a parlé d'Yadema, c'est un opposant. Il m'a dit, la première fois que tu rencontres Yadema, tu es tellement emballé que c'est un homme qui est très aimable. Et j'ai tout de suite conclu pourquoi Yadema n'a pas pu quitter le pouvoir, que c'est Dieu qui l'a appelé. J'ai compris que ceux qui le combattaient ne le combattaient pas pour qu'il quitte le pouvoir, mais ils ont contribué à son enracinement. J'ai rencontré encore quelqu'un qui m'a une fois parlé de Fonya Singbe. Il dit Fonya Singbe, c'est un homme calme, respectueux, humble. Lorsque vous le rencontrez, il est tellement aimable. Et donc, j'ai finalement compris pourquoi Fonya Singbe ne quitte pas le pouvoir. Parce que ceux-là qui le combattent ne le combattent pas pour qu'il quitte le pouvoir. Ils le combattent, ils contribuent beaucoup plus à l'enracinement de son pouvoir. Et c'est ce qui vient encore de se passer. Les élections qui sont passées, le comportement des opposants a montré nettement que les opposants ne combattent pas Fonya Singbe, mais ils travaillent beaucoup plus pour l'enracinement de son pouvoir. Que Dieu bénisse le Togo.
Que Dieu vous bénisse aussi. Hélène ?
Oui, bon, moi j'ai deux petites choses à dire. D'abord, à ce qui concerne les élections que nous venons de subir, il faut dire que dans la commune du Golfe 2 et Golfe 3, où j'ai été vraiment actif, il y a eu énormément de votes par dérogation. Énormément de votes par dérogation. On dirait que le parti, le parti qui se dit grand parti, qui sort vainqueur de cette élection communale, ou bien de ces élections communales, puisque c'est dans plusieurs communes.
Non, pour le moment, il n'y a pas de résultat.
On a la tendance. Nous avons participé. Donc, en tout cas, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il y a eu tellement d'utilisation de vote par dérogation, ce qui s'apparente un peu à la tricherie. Je ne veux pas dire le vol, et je le dis à dessein. Cela s'apparente à la tricherie. Le vol, c'est autre chose, c'est encore plus grave, mais ça s'apparente à la tricherie pour avoir un avantage sur les autres. Donc, dans une salle...
En quoi cela s'apparente à une tricherie?
Voilà, dans une salle, il y a eu 70 dérogations. Alors que dans d'autres salles, il y a eu 43 votants. Vous voyez, si les gens viennent voter par dérogation, avec 70 fois, c'est un problème. Alors que sur les omis, c'est-à-dire les gens qui sont venus, qui sont inscrits régulièrement, qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste affichée, il y a eu à peine 2-3. Mais il y a eu tellement de dérogations parce que certains ont eu la chance, la curieuse chance d'avoir des PV, de délégués de bureau de vote excessivement qu'ils ont utilisé à profusion pour avoir un avantage sur les autres concurrents. Donc, sur cette histoire, maintenant, je voudrais finir en saluant le président du mouvement Martin Luther King, qui est également le président de la Voix des Sans Voix, sous la bannière de laquelle on a
compris. Pasteur
Edo Komi. Et aussi saluer monsieur, notre camarade, Folie Sativi, qui est aujourd'hui sous les verrous, parce que il faut dire qu'il était sur notre liste. En tant que il était sur notre liste, il a accepté. Avant les manifestations,
d'accord. Et okay. Notre liaison, okay, merci, non, merci, Hélène, merci.
Et merci aussi au temps VSV.
Merci beaucoup. Et Germain ?
Oui, ben, je crois qu'il faut quand même saluer ce scrutin qui s'est déroulé dans la paix. Il faut saluer la mobilisation des jeunes, même si on n'a pas les résultats et le taux de participation. On peut déplorer le désintérêt de certains jeunes, notamment à la capitale. Bon, ceci dit, c'est-à-dire que les derniers mouvements sociaux qu'il y a eu, qui sont partis des réseaux sociaux, justement, ont plus contribué à fragiliser l'opposition togolaise. Vous avez vu au point où un leader était obligé d'aller à Paris échanger avec un influenceur avant d'aller à l'élection. Et là, ce qu'il a subi après son retour aujourd'hui, je crois que ce mouvement-là a contribué encore à casser l'opposition. Maintenant, on a besoin d'une opposition forte. En face, le pouvoir se renforce. C'est vrai que c'est une tendance qui est vieille depuis plusieurs élections. Et la création d'une Iran en parlait, une Iran en train de concourir du terrain. Mais il faut quand même qu'il y ait une opposition qui soit forte. Et ça, il faut travailler à cela. Il faut que de nouvelles idées viennent, des offres émergent. Parce que il y a la vie chère aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens proposent dans l'opposition? Rien. Depuis, j'ai eu aucun projet d'un opposant qui dit quand je viens, voilà ce que je vais faire.
Je remercie beaucoup.
Il n'y en a pas, donc il faut quand même qu'on arrive à ça. Mais d'ailleurs, on félicite aussi les Togolais pour leur maturité. D'accord, parce que l'affaire est
une chose. Merci beaucoup, Jabin Pouli. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci, Gabé Adjaro, juriste, analyste politique. Merci d'être passé dans cette émission. Fermé Tekou Abou, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes journaliste et aussi analyste politique. Merci d'être passé. Et Hélène Dalmeda, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes conseiller régional, voix des sans-voix, bien sûr. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.